Bon, donc déjà suivant, nous allons avoir le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants et dont la maîtresse des débats qui va nous expliquer un petit peu sur les brevets et présenter les intervenants.
Alors, présenter les intervenants, on a Emmanuel Cox de ACTOP qui nous parlera des brevets médicaments, Hervé Lemeur de OGM d'Angers, d'Internes, qui nous parlera plus des aspects brevets sur le vivant, et Frédéric Coucher, et Frédéric Coucher d'April qui nous parlera de l'aspect brevet sur les logiciels et les méthodes de calcul et méthodes de commerce sur les médicaments, à la fois le vivant, les médicaments, les médicaments bon, sont déjà brevetés depuis pas mal de temps, mais avec des projets de directive à la fois sur le vivant et sur le. Et sur le logiciel, qui ne sont pas transposés en droit français ou qui n'ont pas encore été décidés au niveau européen pour ce qui est des logiciels et qui sont très fortement contestés parce que l'expansion ou le dévoiement, on peut dire, du système des brevets tel qu'il a été introduit dans les lois des pays européens aux alentours, au cours du XVIIIe siècle. Ce dévoiement des brevets permet à l'heure actuelle à des transnationales de s'approprier ce qu'on va caractériser comme des ressources immatérielles, de s'approprier ces ressources et d'en faire un commerce très juteux en dépossédant totalement le bien commun. Or, le principe de départ du système de brevet était d'octroyer à l'inventeur un privilège qui lui permettait d'exploiter son invention et d'en tirer des bénéfices, ceci à condition que l'invention soit accessible à d'autres, rendue publique par le biais d'une description et d'une publication. Et qui devait permettre à la concurrence de se développer et qui est donc supposé favoriser l'innovation. Alors on verra à travers les différents exemples que pour ce qui est de favoriser la concurrence, c'est pas vraiment le cas, ça permet plutôt des créations de monopoles au niveau planétaire. Et que pour ce qui est de favoriser l'innovation, ça n'est pas le cas non plus, étant donné que cette appropriation des ressources bloque considérablement la recherche, et que toute personne souhaitant utiliser un organisme génétiquement une recherche préalable doit d'abord payer des licences coûteuses avant de pouvoir le faire. Donc il y a un vrai dévoiement du système de brevet. Donc au départ, le système de brevet, il n'est que la continuation des systèmes de privilèges anciens. La première trace d'ailleurs que les historiens citent souvent en termes de brevet remonte à l'Antiquité. C'était un privilège qui était accordé sur une recette de cuisine. Alors c'est un peu un contre-exemple parce que justement les recettes de cuisine ne sont pas protégées par les brevets, pas plus que les formules mathématiques. Et donc à cette époque-là, la description qu'on en retrouve dans certains écrits, c'est que il était dit, si quelques traiteurs ou chefs de cuisine inventaient un plat d'une qualité exceptionnelle, tel était son privilège que nul autre que lui-même ne pouvait en adopter l'usage avant une année, afin que le premier à inventer puisse seul posséder le droit de le réaliser pendant cette période, de manière à encourager les autres à exceller par de telles inventions dans une vive compétition. Alors on retrouve quand même dans cette description les différentes conditions qu'on va retrouver ensuite dans les conditions d'octroi, les privilèges, puis les brevets. Alors, les privilèges, on retrouve historiquement des exemples, par exemple, entre le alors j'ai pas de date précise ici, c'est 1250, pardon, un monopole au maire de Bordeaux sur la fabrication de tissus de plusieurs couleurs à la manière des Flamands, des Français ou des Anglais. Ça, c'est la description vague par excellence qui montre bien que les privilèges à l'époque couvrait éventuellement des inventions, mais couvrait aussi des reproductions ou des importations, dans la mesure où la chose n'était pas connue localement dans le pays, elle pouvait se voir octroyer un privilège d'exploitation. On retrouve une forte utilisation des privilèges au XVe siècle dans les républiques italiennes, République de Florence, République de Venise. On retrouve la trace de privilèges pour l'exploitation d'un boulin à grains, pour la production de verreries à la manière du Soudan. Galilée avait également obtenu un brevet sur un édifice pour soulever les eaux et irriguer les terrains. En 1474, la République de Venise avait d'ailleurs introduit une loi énonçant quatre principes de base qui justifiaient l'octroi d'un privilège. C'était la nouveauté, c'est-à-dire que l'invention n'ait jamais été réalisée auparavant sur le territoire. C'était l'ingéniosité, donc ça correspond au concept de nouveauté ou de non-inventivité, voilà. Et le troisième point, c'est que l'invention soit au point de manière à être utilisée et appliquée. Donc ça, c'est le concept d'utilité et d'application industrielle. Alors, on voit qu'à certaines périodes, comme au XVIe siècle, par exemple, il y a eu des octrois de brevets, de privilèges sur des exploitations minières. Alors là, il n'y avait pas d'invention particulière, c'était simplement les exploitants miniers, comme ils avaient une charge d'aménagement du lieu et d'équipement, ils s'assuraient d'un privilège d'exploitation de manière à rentabiliser leurs investissements. Et donc sur toute cette période, 16e, 17e, on voit assez clairement que le privilège est utilisé pour créer des monopoles. Les souverains en accordent pas mal aux manufactures royales, donc il y a une attitude assez protectionniste. Les privilèges exclusifs sont d'ailleurs plutôt réservés à certaines catégories d'entreprises ou certaines manufactures royales, donc on sert l'intérêt national, mais par contre les inventeurs ont plutôt des privilèges simples, qui sont des subventions, des récompenses, et une possibilité d'exploiter, mais pas forcément avec une exclusivité. Donc, progressivement, il y a des monopoles qui s'installent dans les différents pays, et à plusieurs périodes, on voit que le système se corrompt, et il y a des rectifications, en Angleterre par exemple, l'ensemble du système de privilèges a été proprement aboli en 1623 par le statut des monopoles, le statut of monopolies, de manière à permettre à des inventeurs et à des individus de récupérer de pouvoir obtenir des privilèges sur de véritables inventions. et non pas d'avoir des manufactures et des proches de la couronne qui accaparaient l'ensemble de ces privilèges. Donc là, le choix qui avait été fait, c'est d'abolir le système et de recréer un système de lettres de patente qu'on espérait plus équilibré, qui a redéraillé immédiatement derrière, qui a provoqué une nouvelle abolition, et qui fait que finalement l'Angleterre a demandé à une certaine période à ce que l'inventeur fournisse une description suffisamment claire et précise de son invention, de manière à ce que une personne du métier puisse la reproduire. Donc là, il y a un élément de contrôle nouveau qui est introduit, de manière à ce qu'on n'attende pas des brevets sur de simples importations ou des brevets de perfectionnement qui permettent à un inventeur de récupérer l'invention de quelqu'un qui a été bon et de reposer.
Et accessoirement, ça redonne un peu plus de pouvoir à l'État qui est le garant.
Alors, en France, on a le système des privilèges qui arrive à son terme au moment de la Révolution, et le premier système de brevets, la première loi concernant le brevet sur l'invention, qui a été en 1791. À l'issue de la Révolution, on a déjà dans la Déclaration des droits de l'homme, à l'article 17 qui consacre la propriété comme un droit inviolable et sacré, nul ne pouvant en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Donc cet article-là, on pourrait y faire référence. Aujourd'hui, en ce qui concerne le problème des médicaments génériques, puisque il y a effectivement une nécessité publique, et c'est un point qui peut être utilisé dans le cadre des brevets sur les médicaments. Donc cette loi de 91 accordait un brevet aux inventeurs la propriété et le droit d'exploiter leurs inventions pour une durée variable de 5 à 15 ans, en fonction du montant d'une taxe acquittée. Le brevet était obtenu sans examen préalable, l'État ne voulant pas être garant de l'invention et laissant à l'inventeur la responsabilité de son invention. Mais au terme, à l'échéance de ce brevet, l'invention devait être mise dans le domaine public, qui en récupérait ainsi la description et l'usage. Il pouvait également être annulé en cas de non-paiement de taxes ou de non-exploitation sous 2 ans. Le système semble à peu près contenir à l'époque. Il y a une augmentation assez sensible du nombre de brevets. On passe de 151 en 1820 à plus de 2000 en 1845. Cette loi de 1791, elle sera modifiée par la loi de 1844, qui supprimera totalement l'examen préalable, qui supprimera également le brevet d'exploitation et qui introduira la notion de description suffisante permettant à l'homme de métier de reproduire l'invention. Donc, en 1844, on a un régime de brevet encadré par une loi qui correspond, hormis l'examen préalable, relativement aux lois qu'on a aujourd'hui. Alors, les objets de litige dans ces systèmes de brevets, on trouve en 1827 une méthode d'enseignement à écrire. Elle a été déposée par un professeur de calligraphie. Et en 1829, une méthode rapide d'enseignement de l'orthographe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble qu'il y ait déjà eu des contestations à l'époque. On retrouve des traces dans les archives des arts et métiers de quelqu'un qui dit que ce brevet lui semble très, très étonnant parce que la loi de 91 disait déjà que les seules industries relatives aux arts et métiers pourraient être brevetées et excluées de ce fait, entre autres les opérations financières et les méthodes de calcul, et que lors de la révision de la loi de 1844, on mentionnera également que les méthodes dites d'objets immatériels ne soient pas brevetables. Donc, ces méthodes d'apprentissage d'écriture ou d'orthographe, on peut rapprocher éventuellement des méthodes de commerce, de certaines méthodes d'échange de données que l'on parle, qu'on parle aujourd'hui de projets comme au même titre que les logiciels. On voit que ce type de litige n'est pas nouveau et s'est posé déjà depuis un certain temps. Donc la loi de 1944 interdit également le brevetage des plans ou combinaisons financières et interdit le brevetage des compositions pharmaceutiques et des remèdes. Donc, à cette époque-là, le problème qui se posait, c'est qu'on opposait cela à des enjeux de santé publique. Il n'y avait pas de structure d'État, il n'y avait pas d'examen, donc il n'y avait pas de contrôle sur la qualité du remède ou de la composition pharmaceutique. Et il y avait, bon, la pharmacie à cette époque-là. C'était plutôt des potions magiques et des remèdes miracles. Donc, on redoutait beaucoup le charlatanisme. Et le fait de poser un brevet, d'accepter de donner un brevet sur une composition pharmaceutique, pouvait, aux yeux du public, apparaître comme un gage de qualité du remède. On a préféré, pour ces raisons-là, les exclure. Ceci dit, il y a quand même eu des tentatives de dépôt, il y a eu des litiges, et il y avait la commission des arts et manufactures qui avait des chimistes qui, de temps en temps, examinaient, bien qu'il n'y ait pas eu d'examen préalable prévu par la loi. Il y avait quand même une espèce de contrôle a priori avant que le brevet soit accordé, et il y a des brevets sur des compositions pharmaceutiques qui ont été rejeté après examen. Alors, les brevets sur les médicaments ou sur les compositions pharmaceutiques, on les a vus arriver au moment de l'essor de la chimie. Là, il n'y avait pas possibilité de breveter une molécule, mais on a vu un certain nombre d'industriels proposer à ce moment-là de breveter le procédé d'isolation de cette molécule. Il faisait également un autre argument était la nouveauté de l'usage. Donc, ce sont les mêmes arguments qu'on retrouve aujourd'hui concernant les organismes, les dépôts de brevets sur les organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire que on a recours à un effet technique, donc une méthode d'isolation ou d'extraction d'un élément, ou à la nouveauté d'un usage, pour pouvoir obtenir un brevet sur le produit lui-même et pouvoir ainsi contrôler l'accès à ce produit et obtenir des royalties si quelqu'un d'autre s'en sert. s'il y a des choses que j'oublie, vous...
Non, il y a très bien. Ouais. C'est plus simple.
Vous n'hésitez pas à couper. J'ai perdu un peu le fil. Donc le brevet, alors je continue sur le brevet sur les composés pharmaceutiques et les médicaments. Il apparaît de diverses manières aux alentours de... En 1941, la France va instituer un système de visa. La France a résisté pendant très longtemps sur les brevets, sur les médicaments. Il a fallu que les États-Unis et d'autres pays voisins européens, comme l'Allemagne, qui avait eux un brevet sur les médicaments, fassent pression très fortement. Il y avait une attitude très protectionniste de la France, qui avait institué un système de visa pour les médicaments nouveaux. Donc le premier qui déposait une vitamine, par exemple, avait droit à ce visa d'exploitation. Ce qui arrivait derrière avec la même vitamine, mais sous le nom d'un autre laboratoire, obtenait un produit sous cachet. Et on le voit finalement le brevet médicament apparaître en France qu'en 1959 sous la forme d'un brevet spécial sur le médicament qui ne sera et ce ne sera finalement intégré à la loi générale sur les brevets qu'en 1968. Alors, autre objet de litige, ce sont les espèces végétales. Alors, on retrouve un texte, une proposition qui émanait en 1833 des États pontificaux, par exemple, qui estimait que les obtenteurs, les cultivateurs devaient pouvoir être protégés au même titre que d'autres inventeurs sur leur création et qui proposaient donc d'appliquer aux produits de l'agriculture le système des brevets. Ceci dit, en matière d'espèces végétales, un des problèmes, c'est le problème de la destruction de l'invention. Ce qui n'est pas évident du tout en matière d'espèces végétales. Et décrire l'invention, d'une part, et d'autre, excusez-moi, j'ai complètement perdu le fil.
D'avoir des bases de données dans les catalogues.
Les catalogues, hein. Oui, c'est assez. Mais les catalogues ne protégeaient pas. N'accordaient pas un droit d'exploitation à l'inventaire.
Non. Non, mais ça permet d'avoir une base de référence, ça permet de retourner à la charge de la preuve. Ça fait que le caractère public de la description fait qu'on peut aujourd'hui identifier.
Sur les végétaux,
sur les végétaux, oui. Enfin, en difficulté sur les végétaux, le brevet ne semble pas être le meilleur moyen de protéger les inventions dans ce domaine. Donc, on étudie un autre système, qui sont les certificats d'obtention végétale. Qui se mettra finalement en place en 1961 et qui semble beaucoup plus adapté et qui est beaucoup moins contraignant puisque le droit de l'obtenteur ne s'étend pas aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés. Ce qui veut dire que la variété est protégée et qu'à partir du moment où elle est commercialisée et mise sur le marché, un autre obtenteur peut l'utiliser, peut y apporter des modifications, peut la développer davantage et peut à son tour créer une nouvelle espèce et la protéger par le biais d'un certificat.
À quoi sert la protection ?
Sur la variété en tant que telle. Ouais. Mais elle ne bloque pas le développement d'autres variétés pouvant réutiliser cette variété. Ah,
voilà,
en gros, c'est un droit d'auteur par opposition à un brevet. Oui.
Bon, donc ça, peut-être que tu l'envoies ultérieurement. Encore. Alors, là, le dernier objet de litige, c'est bien sûr le brevet sur le vivant, qui n'était qui bien sûr n'était pas inscrit dans les lois du 18e siècle et du 19e siècle, qui a démarré. Alors, en France, au 19e siècle, il y a quand même eu le cas de Pasteur, par exemple, des recherches de Pasteur, qui avait posé des demandes de brevets en France et aux États-Unis, et pas sur un organisme vivant à proprement parler, mais sur une méthode de fermentation particulière, utilisant des levures, par exemple. Et qui avait, à l'époque, obtenu des brevets.
Un brevet aux États-Unis, il n'y en a pas eu après.
Et en France, il n'en a pas eu.
Oui, il n'y
en
a pas eu. Ah bon.
Alors, par contre, le démarrage du brevetage du vivant, c'est aux États-Unis que ça se passe, en 1971. Le docteur Chakrabarty pose une demande de brevet sur un micro-organisme génétiquement modifié pour manger les hydrocarbures, pour intervenir dans les problèmes de marée noire, par exemple. On avait imaginé d'utiliser ce micro-organisme. Le brevet est tout d'abord refusé puisque la législation américaine ne prévoit pas aucun brevetage sur le vivant. Le docteur Chakrabarty fait donc appel et la Cour d'appel des douanes et brevets change la décision en décidant que le fait que ce soit des êtres vivants n'avait pas de portée juridique. Donc il accorde le brevet et l'Office des brevets américains, qui est à l'époque encore contre le brevetage du vivant, fait à son tour appel auprès de la Cour suprême, et malgré une mobilisation de l'opinion publique assez importante aux États-Unis, la Cour suprême décide à ce moment-là, par 5 voix contre 4, que le problème n'est pas de savoir si on peut breveter ou pas le vivant, mais le problème est de savoir s'il s'agit d'une invention humaine. Il décide que oui, et donc il valide le brevet. Donc c'est l'ouverture d'une course assez frénétique. On voit à ce moment-là des industries de la pharmacie, de la chimie, de l'agroalimentaire et les petites sociétés de biotechnologie faire des tours de table, récupérer de l'argent, mettre le paquet sur la recherche, en se disant qu'il y avait là de quoi déposer massivement des procès et de quoi faire fortune. D'ailleurs, les entreprises de biotechnologie à cette période-là ont des poussées en bourse absolument exceptionnelles. Et il y a une industrie nouvelle qui se lance à la course au brevet. Alors, suite à ça, il y a une affaire dont je n'ai pas retrouvé la trace, mais il y a eu. Bon, il y a tout le projet de décryptage du génome humain qui démarre. Il y a des chercheurs qui commencent à déposer, non pas des gènes, mais des cellules souches, des embryons de recherche qui commencent à breveter. Il y a un chercheur qui travaillait auparavant au MIH, qui est le centre de recherche de la santé nationale américain, qui quitte, alors, qui travaillait donc sur le projet de décryptage du génome humain, qui quitte le MIH, qui monte une société privée avec beaucoup de capitaux, et qui dépose quelque chose comme 2000 brevets sur des gènes dont il n'a même pas encore identifié les fonctions. Et l'ensemble de ces brevets sont acceptés. Donc, l'Office des brevets américains change son fusil d'épaule. Il déclare à ce moment-là que la totalité du vivant est absolument brevetable. Et en Europe se pose le problème également. Donc il y a un projet de directive qui est entrepris, auquel le Parlement européen s'oppose au départ très formellement. Il y a une campagne de lobbying très intense qui est faite au niveau de l'Europe. La Commission, elle, amende très sensiblement la directive et vote en faveur des brevets pour le vivant. Et finalement, le lobby pharmaceutique mené par Europa Bio organise toute une campagne au pied du Parlement en faisant venir des handicapés avec beau t-shirt jaune sur lequel est inscrit des brevets pour la vie. Et la directive européenne est votée par le Parlement et sera validée en 98, autorisant le brevetage, alors pas des espèces végétales ni animales, mais de la matière vivante. Alors, j'ai pas le texte de l'article précis.
La directive utilise 43 fois le terme de matière vivante, ouais. Parce que le vivant, c'est pas brevetable, donc on l'appelle matière vivante et ça peut devenir brevetable.
Donc, elle est transposée par 5 pays européens.
C'est ce qu'on appelle ça le matérialisme.
Non, c'est juste.
C'est une forme de matérialisme.
Ouais. Elle est transposée par 5 pays européens. Et la France a fait d'un lobby pour qu'elle soit adoptée dans son adoption. Maintenant, on ne peut plus la faire adopter parce qu'ils sont venus sur une position un peu moins maximaliste. Et ils veulent la transposer en faisant une exception de principe à la directive.
Oui, ils ont
retiré. Après l'avoir fait adopter par le Parlement européen, quand même.
C'est pas les mêmes institutions. Ceux qui ont fait du lobbying là-bas de l'État, c'était ceux qui étaient plus proches des industriels. Et ceux qui sont maintenant un petit peu réticents sont ceux qui sont plus proches de leurs électeurs.
Tout à fait. Mais le problème est là.
Alors par contre, dans la modification de la loi bioéthique en train d'être édité, là, il y a un amendement qui a été déposé s'opposant à la brevetabilité du vivant. Je crois qu'il devait y avoir un vote dans la semaine. Je n'ai pas vu les résultats, mais
pour l'instant, je
doute fort que ça passe en l'état. Donc voilà, pour le moment, on est là.
Qui commence.
Et je ne dis pas ça va.